les conférences de la grenouille. À écouter sur le 88.8. Chaque samedi à 10h.
Et pour l'heure que nous passerons ensemble, calotte polaire, banquise, glacier de montagne, Bernard Francou et son complice Christian Vincent ont arpenté celle que l'on appelle la planète blanche pour en dresser l'état des lieux. Une façon de nous rappeler que l'avenir des sociétés dépend étroitement des glaces à travers le niveau marin, la circulation océanique, la ressource en eau et nombre d'activités économiques telles que le tourisme. Ils nous font partager leur état des lieux dans le livre « Quoi de neuf sur la planète blanche » que le glaciologue Bernard Francou est venu présenter à l'Alcazar à l'invitation de l'Institut de recherche pour le développement. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Effectivement, il est question de ce livre qui n'a pas eu le prix Goncourt, je suis vraiment désolé. Mais, et puis ce n'était pas l'intention non plus, ce n'est pas un roman, c'est une sorte de visite, un état des lieux de ce qu'on appelle la planète blanche, c'est-à-dire tout ce qui est blanc, tout ce qui est gelé à l'échelle de la planète. D'abord, les calottes polaires, bien sûr, les banquises. Il y en a une au sud, il y en a une au nord. Il y a les glaciers de montagne et les petites calottes qu'on trouve par exemple en Alaska, dans les Alpes, les Pyrénées, Tibet, Himalaya. Il y a les manteaux neigeux. À Marseille, on pratique le ski dans les Alpes, j'imagine. Il y a beaucoup de Marseillais qui montent dans les Alpes bientôt, à Noël. Et on se pose la question aussi de l'évolution des manteaux neigeux, notamment dans l'hémisphère nord, où ce manteau neigeux est très documenté depuis longtemps. Et également, bien sûr, dans les Alpes, c'est toujours intéressant de faire des zooms sur des régions qu'on connaît bien, et où le manteau neigeux a des intérêts aussi économiques, comme on le sait. Voilà, donc, à la demande d'un éditeur, qui est Glénat, à Grenoble, on a fait, avec Christian Vincent, mon collègue glaciologue, on a fait donc ce petit ouvrage qui fait le tour de la planète blanche, et on s'est demandé, on s'est posé les questions, qu'est-ce que ça devient? Quelle a été l'évolution de cette planète blanche, de cette cryosphère, depuis une trentaine d'années? Ça fait depuis vraiment les années 80, début des années 90, qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique, et c'est à cette occasion qu'a été fondée le groupe intergouvernemental des experts du climat, le GIEC, dont vous avez beaucoup entendu parler, je pense, ces derniers temps. Moi, j'ai eu l'occasion de contribuer à plusieurs rapports de ce GIEC, et au dernier également, sur les glaciers des Andes, puisque, comme l'a dit Marie-Ève, ma carrière s'est déroulée surtout dans les Andes, entre Bolivie, Pérou, Équateur et Colombie, et le plus souvent au-dessus de 5000 mètres d'altitude, puisque sous ces latitudes, les glaciers sont très élevés et on commence à piétiner la glace à partir de 4008-4009, jusqu'à 6000-6005. Voilà. Et pour symboliser un petit peu ce travail, je vous ai amené une photo, une diapositive du sommet de l'Antisana. C'est un sommet qui se trouve à 5750 mètres, à 40 km de Quito, donc en Équateur, et qui est tout près de l'Équateur. Il est à 28 minutes de l'Équateur. Et donc, c'est un très, très beau sommet qui domine, on ne voit pas puisqu'il y a la mer de nuages, qui domine l'Amazonie. Et ce qui se trouve sous les nuages, ça se place déjà à 300-400 mètres d'altitude. C'est là vraiment la forêt dense, la forêt donc équatorial. Donc, nous allons regarder un petit peu cette planète blanche de plus près, et nous allons essayer de comprendre le déclin des glaces, essayer de répondre à des questions toutes simples. Est-ce que le déclin des glaces se produit partout? Est-ce que ça concerne toutes les calottes polaires, Antarctique, Groenland? Est-ce que ça concerne les banquises, celle de l'Arctique et celle de l'Antarctique. Est-ce que tous les glaciers de montagne reculent dans le monde? Est-ce que c'est le cas, par exemple, au Karakorum, à l'ouest de l'Himalaya, au Pamir, en Alaska, en Patagonie, etc. Est-ce qu'il y a vraiment un signal cohérent que l'on peut trouver et qui serait l'empreinte, bien sûr, du réchauffement climatique, dont vous savez et dont vous connaissez l'accélération depuis les années 80, 70-80. Voilà. Et nous savons également que cette accélération du réchauffement climatique, qui dure depuis déjà un siècle, depuis les années 1850, eh bien, porte l'empreinte des activités humaines, puisqu'il est largement associé aux activités de l'homme. C'est l'homme qui, depuis au moins 50 ans, 60 ans, change le climat. C'est une chose que nous savons maintenant. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons visiter comme territoire? Eh bien, sur cette carte, on représente la cryosphère. Vous voyez les calottes de glace, en particulier la grande masse de l'Antarctique, ici, avec ses plateformes, avec ses glaciers de montagne sur la péninsule et sa banquise. Vous avez le pendant dans l'hémisphère nord, c'est le Groenland, ici, beaucoup plus petit, mais néanmoins très significatif. Sa banquise autour, qui est un peu moins vaste que celle de l'Antarctique. Et puis vous avez également marqué en noir les glaciers de montagne, vous voyez le Tibet en particulier qui apparaît très bien à droite, les Rocheuses, l'Alaska, le nord du Canada. Ici dans les Andes, vous avez eh bien, les Hielos de Patagonie, ici, les champs de glace, nord et sud, terre de feu, et puis ce secteur-là où j'ai travaillé particulièrement, ici, dans ce secteur. Voilà. Et puis, alors, vous avez en violet, ici, mauve, vous avez également des aspects de la cryosphère que nous n'allons pas visiter, puisque je n'ai pas voulu trop alourdir cette conférence. C'est ce qu'on appelle le permafrost. Le permafrost, ou pergélisol en français, ce sont des sols qui sont gelés en permanence et qui ne dégèlent pas pendant l'été. Et ces permafrosts constituent de très grandes surfaces, notamment au nord du Canada et au nord de la Sibérie. On a des permafrosts qui atteignent et qui dépassent 600-700 mètres d'épaisseur et qui également posent des problèmes actuellement avec le dégel consécutif au réchauffement. Et puis en vert, vous avez aussi quelque chose qui fait partie de la cryosphère, bien sûr, ce sont les manteaux neigeux saisonniers. Les manteaux neigeux qui tombent, qui se forment, qui se constituent en automne, qui atteignent leur maximum au cœur de l'hiver et qui ensuite disparaissent complètement au printemps. Donc si on fait les comptes, on voit quand même que la cryosphère, dans son ensemble, constitue entre 52 et 55% des terres émergées. C'est quand même important et donc ça nécessite évidemment qu'on s'y intéresse de près. Et effectivement, quand on regarde les choses d'un peu plus près, quand on essaye d'évaluer ce que pèse chacune de ces composantes, voyons par exemple sur les continents. Alors, je vais vous dire des millions de kilomètres carrés, des volumes, des kilomètres cubes, etc. Ça ne dit pas grand-chose. En général, ce qui nous intéresse pour les glaces continentales, c'est l'équivalent en niveau océanique. Autrement dit, vous faites fondre ces masses de glace, qu'est-ce qu'il en résulte en termes d'exhaussement du niveau des océans? Eh bien, deux choses nous frappent immédiatement. C'est que, vous voyez, vous faites fondre complètement l'Antarctique, ici. Vous soulevez le niveau marin de 58 mètres. Vous faites fondre le Groenland, c'est un peu plus de 7 mètres. Donc on voit déjà les disparités. Le Groenland, c'est important, mais néanmoins, rien à voir. Ce n'est pas à la même échelle que l'Antarctique. Et alors, si vous faites fondre tous les glaciers de montagne, hein, je répète, l'Alaska, le Tibet, etc., eh bien c'est seulement 41 cm. Donc c'est peu. Autrement dit, quand on s'intéresse de près à la cryosphère et quand on étudie les conséquences que ça peut avoir en termes d'élévation du niveau marin, bien entendu, on doit se concentrer surtout sur les calottes polaires, qui renferment à peu près 65 mètres de niveau marin. Je rappelle que l'altitude de Paris au niveau des Halles, c'est 26 mètres. Donc, en cas de fonte totale de ces deux masses glaciaires, Paris serait réduite à l'état d'îlot. Donc ça fixe un peu les idées. Et puis en face, j'ai mis l'extension sur les océans. Ça concerne essentiellement les banquises. Vous voyez qu'il y a une banquise au nord, une banquise au sud. Et ça n'affecte pas le niveau marin. Parce que, comme vous savez, les banquises, ce sont des glaces flottantes. Et si elles disparaissent, ça n'affecte pas le niveau marin. C'est comme si vous mettez dans votre verre whisky, ou de pastis, on dit plutôt ici, je crois, vous mettez un glaçon, vous surveillez le niveau de votre pastis, et voyez que quand le glaçon a fondu totalement, le niveau n'a pas changé. Ça, c'est une image pour vous dire que, contrairement à ce qu'on voit écrit parfois dans les journaux, les changements de la banquise n'affectent absolument pas le niveau des océans. Voilà. Donc, avançons un peu. Tout d'abord, nous allons essayer de regarder ce qui se passe sur les grandes calottes polaires et les banquises. Quelle évolution ces banquises et ces calottes ont-elles connu ces dernières années ? Tout d'abord, il faut dire que étudier de telles masses glaciaires qui ont une formidable extension et qui constituent des volumes considérables, l'Antarctique, la calotte, c'est 30 millions de kilomètres cubes, donc imaginez la masse que ça représente. Comment peut-on suivre des masses pareilles, des volumes pareils ? Jusqu'aux années 1970, il était totalement illusoire de vouloir faire des bilans de masse de ces grandes calottes polaires. L'ère des satellites a changé complètement, et grâce aux satellites et à différentes techniques embarquées dans les satellites, on peut maintenant arriver à des appréciations, à des estimations assez bonnes des volumes, et en particulier des changements de volume de ces énormes masses glaciaires. Par exemple, sur l'Antarctique, on peut distinguer cinq composantes principales. Vous avez la calotte est ici, qui est de loin la plus grande masse de glace de la planète. C'est 88% des volumes de glace de l'Antarctique, donc c'est absolument considérable. Vous avez une deuxième partie qui se distingue ici et qu'on appelle l'Antarctique de l'Ouest, beaucoup moins volumineuse, c'est 10% à peu près des glaces du continent. Et puis vous avez cette section qu'on appelle la péninsule, qui est dirigée vers l'extrémité sud de l'Amérique du Sud, vers la Terre de Feu, et qui comprend des glaciers qui sont assez semblables aux glaciers qu'on trouve en Alaska, par exemple, ou dans le Grand Nord canadien. Donc trois parties essentiellement. Et puis, vous avez les glaces flottantes. Et dans ces glaces flottantes, vous avez ce qu'on appelle des plateformes. C'est des plateformes, des plaques de glace qui font jusqu'à 400 mètres d'épaisseur et qui flottent, effectivement, sur l'océan. Vous avez ici la plateforme de Run et ici la plateforme de Ross. C'est équivalent à la surface de la France, donc c'est considérable. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces plateformes, viennent s'adosser des courants de glace qui drainent la partie centrale de l'Antarctique. Et quand on regarde un peu l'importance des plateformes, tout autour du continent antarctique, on s'aperçoit que 75% des côtes y compris la côte de la base française du Mont-d'Urville, ici, sont ceinturées par des plateformes. Et ces plateformes jouent un rôle important parce qu'elles retiennent les glaciers. Les glaciers, les exutoires glaciaires viennent se jeter sur les plateformes et on a vu ici, notamment en péninsule, que quand, par malheur, les plateformes disparaissent, eh bien, les glaciers ne trouvent plus cette résistance et voient leur flux augmenter d'une façon considérable. Autrement dit, ces plateformes jouent en quelque sorte un rôle d'arc-boutant, hein, comme dans les cathédrales gothiques, c'est-à-dire qu'elles tiennent la structure, elles maintiennent l'équilibre de la structure, et donc elles ont un rôle tout à fait important, et il est important de voir donc ce qu'elles deviennent au cours du temps. Et puis vous avez bien sûr la banquise antarctique. Ici, elle est représentée l'hiver, à son extension maximum, c'est-à-dire en septembre. On est dans l'hémisphère sud. Hein. Mais par contre, quand elle a fondu, c'est-à-dire en mars, février-mars à peu près, eh bien, il en reste très peu, contrairement à l'Arctique, nous le verrons. Donc c'est une banquise qui croît et décroît saisonnièrement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est son extension maximum. Et ici, cette extension maximum a pu varier au cours du temps, durant les décennies qui viennent de s'écouler. Alors, en gros, grâce, donc je l'ai dit, à des satellites et à des techniques sur lesquelles on peut revenir dans la séance de questions, si vous voulez, tout à l'heure, on a maintenant une idée du comportement de ces trois grandes parties. Je répète, l'Antarctique de l'Est, de loin la masse de glace la plus importante, l'Ouest ici, et bien sûr la péninsule. Ça pour les glaces continentales. En gros, les derniers articles, les dernières études parues montrent en gros que la calotte Est est à peu près stable. Donc quand on dit oui, les glaces reculent, etc. Eh bien, notez quand même que la plus grande masse de glace du monde, et de loin, actuellement, est stable. Et heureusement. Heureusement. Pourquoi stable? Eh bien, pour des raisons diverses qui sont étudiées actuellement. Stable parce que même si on a noté un début d'érosion, de fusion de cette masse de glace, notamment sur les bordures, au voisinage d'un océan assez chaud, même si c'est un océan glacial, mais il est quand même plus chaud que la glace qui descend et qui se jette dans cet océan, eh bien, on note en général une tendance à l'augmentation des précipitations, notamment sur les bordures. Vous voyez ici en bleu, je ne sais pas si ça se voit de loin, mais ce sont des régions où le bilan est légèrement positif. Et ce bilan légèrement positif est associé à une augmentation des précipitations neigeuses. Il faut dire qu'au centre de l'Antarctique, ici c'est la base de Concordia, chère aux Grenoblois, puisque c'est là qu'on a foré une carotte de près de 3 km d'épaisseur, qui nous a permis de remonter à des glaces vieilles de 800 000 ans ici. Eh bien, ici, donc, il y a une station franco-italienne qui s'appelle Concordia. Et Concordia, la température moyenne de l'année, c'est moins 51 degrés. Et surtout, les précipitations, c'est quelques millimètres par an. Autrement dit, c'est aussi faible que ce qu'il parvient au centre du Sahara, dans les régions les plus arides du Sahara. Donc c'est un désert. Néanmoins, comme si ces précipitations augmentent, surtout sur les bords, je le répète, eh bien ça contribue quand même à augmenter la masse de l'Antarctique. Voilà, donc retenez que la calotte Est est stable, à peu près. Par contre, alors, ce qui est plus inquiétant, c'est de constater depuis une vingtaine d'années une fonte importante de la calotte ouest ici. Et c'est marqué ici, vous voyez, il y a une petite échelle bleue, c'est positif, rouge, c'est négatif. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de plaques ici rouges. La raison essentielle, ça n'est pas seulement, c'est peu le fait que la surface de la calotte fond davantage, ce qui se produit au Groenland, nous le verrons tout à l'heure, mais c'est qu'on note, notamment dans cette partie-là, ça c'est la mer d'Amundsen, Amundsen c'est celui qui a eu la chance d'arriver le premier au pôle sud, avant Scott, comme vous le savez, eh bien, toute cette partie-là montre une accélération extrêmement importante des émissaires. Des émissaires, c'est-à-dire des glaciers qui drainent le centre de la calotte. Et vous voyez, donc, cette partie perd énormément de volume actuellement depuis, on va dire, la fin des années 80. Ça, c'est une évolution qu'on a notée et qui est assez préoccupante. Alors pourquoi ? Eh bien, il y a différentes raisons à ça. La première raison, c'est le fait que, ici, toute cette partie de la calotte est au niveau de la mer et même en dessous du niveau de la mer. Autrement dit, le socle qui repose, sur lequel repose cette masse de glace plonge de la côte vers l'intérieur. Et ça, ça induit une fragilité très importante de la calotte. Avec les marées, avec la montée de l'océan, donc on note un recul des lignes de flottaison, qu'on appelle des lignes d'échouage, et on a étudié l'évolution des lignes d'échouage, et on a déterminé que ces lignes d'échouage étaient montées en amont, c'est-à-dire vers l'intérieur de la calotte, de quelques 10 à 30 km au cours des trois dernières décennies. Autrement dit, ces glaces sont de plus en plus flottantes, et à mesure qu'elles se détachent du lit rocheux, les résistances au glissement diminuent, et donc la vitesse superficielle, la vitesse de ces courants de glace, augmente dans un facteur 2, voire facteur 3, au cours de ces dernières décennies. Il y a là donc une des régions de la planète où il y a en puissance une possibilité de fonte importante de très grandes masses de glace qui pourrait aboutir à une élévation assez importante de l'océan. C'est une région, un problème qui est actuellement très discuté, mais certains chercheurs n'excluent pas que d'ici la fin du siècle, on ait 10, 15, voire 20 cm d'exhaussement de niveau océanique uniquement associé à cette région fragile de l'Antarctique, l'Antarctique de l'Ouest. Dernière région, c'est la péninsule. Alors la péninsule est mieux étudiée puisque il y a beaucoup de stations scientifiques, avec des stations météorologiques, etc. Et donc, les études ont montré que, depuis un demi-siècle, il y a eu un recul tout à fait important. Cette région a perdu 25% de ses masses glaciaires depuis les années 50. Et la raison est tout à fait facile à déterminer, c'est une des régions du monde où la température s'est accrue le plus au cours des dernières décennies. Depuis les années 50, la température est montée de 2,5 degrés. C'est considérable. Par exemple, c'est plus de deux fois plus que la moyenne mondiale. Donc, une région qui s'échauffe, ici, avec des glaciers qui reculent, une région qui s'échauffe aussi, mais surtout avec des glaciers qui accélèrent. Donc toute cette partie est à scruter à la loupe, puisqu'elle pourrait nous réserver dans l'avenir de mauvaises surprises. On va dire, oui, c'est loin, c'est pas grave, mais quand on parle de niveau de la mer, eh bien, ça intéresse Marseille et beaucoup de régions dans le monde, entre autres. Et alors, il y a un paradoxe, néanmoins, c'est que la banquise antarctique, actuellement, est plutôt en train de croître. Alors que la banquise, nous le verrons tout à l'heure, arctique, a perdu 40% de sa surface depuis une trentaine d'années, eh bien, la banquise antarctique, vous le voyez ici, croît actuellement de l'ordre de 1,5% par décennie. Donc c'est une chose que, jusqu'à présent, on n'arrive pas bien à expliquer. Pourquoi cette croissance, qui est lente, on peut plus parler de stabilité, même une stabilité un peu croissante, on va dire, pourquoi en Antarctique, c'est une question sur laquelle on pourra revenir après. Passons en face, si on peut dire, au Groenland. Le Groenland, c'est 10 fois moins que l'Antarctique, donc c'est quand même considérable, et je le répète, en cas de fonte totale du Groenland, le niveau de la mer se soulèverait de 7 mètres environ. On a vu que l'Antarctique, c'était complexe, avec une partie stable, heureusement la plus grande, une partie devenue instable, l'Antarctique de l'Ouest, la péninsule qui perd pas mal de masse. Eh bien, d'une façon générale, on peut dire que depuis une vingtaine d'années, le Groenland fond, et fond assez rapidement. C'est une calotte plus vulnérable, pour différentes raisons. Elle n'est pas centrée sur le pôle Nord, donc elle est déjà, sa pointe sud descend jusqu'à la latitude du sud de la Norvège, par exemple. C'est une région qui est inscrite dans l'Arctique, et l'Arctique est une des régions du monde actuellement qui s'échauffe le plus rapidement. Donc le Groenland n'échappe pas à ce réchauffement. Par exemple, ici, il y a une station à Summit. Summit est située à 3000 mètres d'altitude, à 3002 exactement. Eh bien, les stations notent une augmentation de 2,4 degrés en 30 ans. Donc on est là à plus de 2 fois la vitesse du réchauffement moyennée à l'échelle de la planète. Donc c'est une région qui s'échauffe très vite, et même en altitude, on le voit bien. Et puis, autre vulnérabilité, ici arrive un courant chaud, bien connu, qui s'appelle, dans le golfe du Mexique, Gulf Stream, et qui s'appelle, quand il passe au large de la Bretagne, qui s'appelle la dérive nord-atlantique. Et ce courant monte et transfère d'énormes quantités de chaleur vers le nord. Et ensuite, dans ces régions-là, aidé par le fait que la banquise se forme en hiver, eh bien, ce courant s'effondre, les eaux plongent de 2-3 000 mètres, et ensuite ont un parcours sous-marin à entre 2 000 et 3 000 mètres de profondeur, et reviennent vers les tropiques. Autrement dit, il y a dans toute cette région ici un apport assez considérable de chaleur associé justement à ce courant chaud. Alors, les pertes annuelles, bon, ça ne vous dit pas grand-chose, mais équivalent, sont estimées actuellement à 142 millions de gigatonnes de glace. Donc, c'est 142 millions, pardon, de tonnes de glace. C'est pas les gigatonnes, il y a une erreur sur le plan. Ce qui équivaut à peu près à presque 0,4 mm de hausse du niveau des océans entre 1992 et 2011. Alors, quand on regarde de près, un peu à la loupe, quels sont les processus qui assurent cette fonte, cette perte de substance de la calotte, on voit que à peu près à égalité, 50% c'est de la fonte de surface, parce que l'atmosphère s'échauffe, et on note, notamment pendant l'été, une fonte de surface qui gagne chaque année du terrain en direction du centre de la calotte. Et puis aussi, 50%, donc la moitié, c'est de la vitesse, l'augmentation de la vitesse des émissaires, un processus qu'on a déjà rencontré en Antarctique de l'Ouest. Autrement dit, les glaciers qui drainent la calotte et qui se jettent dans l'océan, eh bien, ces glaciers accélèrent leur vitesse. Alors, une illustration de la fonte. Vous avez, par exemple, maintenant, au Groenland, c'est un paysage qui est extrêmement fréquent maintenant, dans certaines parties du Groenland, notamment pas loin de la côte. Vous avez ces gigantesques bédières, comme on appelle ça. Bédière, c'est le terme alpin, quand il y a un ruisseau qui coule en surface de la glace, mais là, c'est de véritables rivières. Vous voyez le petit bonhomme, là, qui vous montre un petit peu l'échelle de ces rivières qui sont inscrites sur la calotte. Et puis, quand vous survolez le Groenland avec un avion, pendant l'été, vous avez une multiplication de ces lacs, de ces mares, qui contribuent, bien sûr, à accentuer la fonte. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand un corps est blanc, par exemple, le manteau neigeux frais, la neige est tombée hier, par exemple, eh bien, la neige est très blanche et donc réfléchie entre 80 et 90% du rayonnement, de l'énergie, donc, que le sol reçoit du soleil. Quand le manteau neigeux est évolué, c'est-à-dire vieilli, ou quand c'est de la glace, eh bien, au contraire, cette glace absorbe entre 40 et 60% de l'énergie qu'elle reçoit du soleil. Alors, ce qui se passe pendant l'été, c'est que plus la surface est sale, vous voyez ces traînées de poussière, ce sont des aérosols minéraux qui sont amenés par les vents, plus la formation de ces masses d'eau en surface, eh bien, ça change le pouvoir réfléchissant de la glace, qu'on appelle l'albédo. L'albédo, c'est donc le pouvoir qu'a la surface de réfléchir l'énergie qu'elle reçoit du soleil. Autrement dit, il y a un phénomène de rétroaction positive. Plus ça fond, plus la surface est grise ou couverte d'eau. Plus la surface est grise et couverte d'eau, plus elle absorbe et plus ça fond, etc. Donc, vous voyez, il y a un phénomène de feedback, comme on dit en anglais, qui accentue ces phénomènes de fonte. Et certaines années, comme je le marque là-haut, par exemple en 2012, il y a eu un record qui ne s'était pas produit depuis plusieurs siècles, semble-t-il. 98% de la surface du Groenland était soumise à de la fonte, jusqu'à plus de 3000 mètres d'altitude. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Et en général, on note qu'en moyenne, entre 30 et 50% de la surface du Groenland est soumise maintenant à la fonte pendant l'été. Et ce pourcentage croît au fur et à mesure des décennies. Donc, quelque chose de très sérieux, d'autant plus que cette perte de glace du Groenland se double d'un autre processus dont j'ai dit tout à l'heure qui constitue à peu près 50% des pertes du Groenland. C'est l'augmentation de la vitesse des émissaires. Et il y a un exemple tout à fait remarquable, c'est le Jacob Saven Isbrae, ici, qui est sur la partie ouest du Groenland, près de la baie de Disco. C'est un énorme émissaire dont la vitesse était de près de 6 km par an en 92. Elle est passée à plus de 9 km par an en 2000 et récemment, elle avait atteint presque 13 km par an. Il faut imaginer donc que la glace décrit 13 km donc, avant de se jeter dans cette partie dans l'océan. C'est des masses considérables et effectivement, cela se double d'un recul extrêmement rapide. Là, on a une diapositive qui montre où était le glacier en 1850, lors du petit âge glaciaire, 75 et 1883, 1931, et on voit que le recul du glacier s'accélère actuellement. Rien que ce glacier, qui draine une surface considérable du Groenland, eh bien, contribue donc à niveau de 0,06 mm au niveau marin entre 1993 et 2006. Donc c'est quelque chose qui est phénoménal, et d'ailleurs c'est d'ailleurs probablement un des icebergs relâchés par ce Jacob Salen qui a coulé le Titanic au début du siècle dernier. Donc, augmentation de la fonte de surface et également augmentation de la vitesse des émissaires. Que fait la banquise ? Eh bien, la banquise, on sait tous que c'est un sujet qui fait souvent la une de la presse. Tout le monde a observé depuis les années 70, depuis qu'on l'observe grâce aux images satellites, une augmentation vraiment des pertes de la banquise. On peut estimer ces pertes à environ 50% en volume et 40% en extension. C'est-à-dire, non seulement la banquise se réduit à la fin de l'été, donc en septembre, mais en plus, elle s'amincit de plus en plus. Les vieilles glaces, qui faisaient plus de 4 mètres d'épaisseur, sont de plus en plus menacées et disparaissent progressivement. Et on a une banquise comme la banquise antarctique qui fait à peu près 1 mètre d'épaisseur, pas plus. Et ce sont des glaces qui se forment en une année pendant l'hiver. Par contre, alors ce qu'on note, c'est qu'à la fin de l'hiver, on est à peu près à février-mars, on note pas de recul important lors du maximum. C'est vraiment à la fin de l'été que ce recul est le plus considérable. Alors, il y a pas mal de simulations qui sont faites. Que va devenir la banquise ? Est-ce qu'elle va disparaître totalement ? Plusieurs simulations, faites à Grenoble notamment, montrent que la banquise, à ce rythme, pourrait disparaître totalement d'ici 2050, ouvrant naturellement des routes maritimes nouvelles, on le sait bien, ouvrant aussi la possibilité d'exploitation nouvelle, d'hydrocarbures, de minerais, etc. Nous savons tous que l'Arctique, actuellement, fait l'objet de visées géostratégiques très, très fortes, de pression entre la Russie, entre la Norvège, le Canada, naturellement, et les États-Unis. Alors, en résumé, essayons de voir quelle est la contribution actuelle de l'Antarctique et du Groenland au niveau marin, puisque je me bornerai à étudier ces conséquences-là. Le niveau marin, j'y reviendrai à la fin de la conférence, actuellement augmente de l'ordre de 3 mm par an. 3 mm par an, dans ces 3 mm par an, il y a le tiers, 1 mm, qui est dû à l'expansion thermique. L'océan s'échauffe, au moins sur 70 mètres d'épaisseur, et donc il se dilate, et ça, eh bien, cette expansion thermique suffit à dilater donc, l'océan et augmenter sa surface de l'ordre du tiers de l'augmentation actuelle annuelle. Le total des glaces actuelles, c'est 1,3, 1,4 à peu près millimètres par an. Donc c'est plus que l'expansion thermique. Hein. Et dans ce 1,3 mm, nous voyons que le Groenland contribue à peu près à 0,33 mm par an et l'Antarctique un peu moins, 0,27 mm par an. Autrement dit, si on compare ces chiffres, total des glaces et la somme de la contribution des calottes, on voit que les calottes, même si elles fondent, et si elles constituent des réserves de glace considérables, actuellement ne sont pas les contributrices les plus importantes au niveau marin, si on parle du total des glaces. Et nous allons voir maintenant que ce sont les glaciers de montagne, finalement, actuellement, et peut-être jusqu'à la fin du siècle, qui constituent les principaux contributeurs au niveau océanique. Alors passons maintenant, après le Groenland, après les banquises et l'Antarctique, voyons ce qu'il advient des petits glaciers, des petites calottes. Ça, c'est un domaine que je connais un peu plus, puisque, avec mon collègue Vincent, on se consacre à l'étude de ces glaciers. Ça, c'est une photo qui m'est chère, puisque c'est un glacier qui se trouve en Bolivie, le glacier du Zongo, la capitale ici, La Paz, à 40 km. Et c'est un glacier qui est parmi les mieux étudiés du monde, qu'on a équipé dans les années 90, et qui c'est un glacier qui recule à une très grande vitesse, même si son sommet est situé à droite, à 6000 mètres d'altitude. Alors, que font ces glaciers ? Eh bien, pareil, on a toujours... il ne faut pas perdre de vue que ces glaciers sont nombreux. Il y en a beaucoup dans le monde. Il y a environ 200 000 glaciers dans le monde. Hein. Alors là, j'exclus les grandes calottes hein, polaires. C'est des glaciers de montagne et des petites calottes. Et si on somme les volumes de ces glaciers, eh bien, on peut dire qu'en cas de fonte totale de ces masses glaciaires, le niveau marin prendrait 41 cm. Retenez les chiffres des calottes, donc c'est presque ridicule par rapport à la somme du Groenland et de l'Antarctique surtout. Mais néanmoins, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont les masses de glace qui contribuent le plus actuellement au niveau marin, en dehors de la dilatation thermique, bien sûr. Hein, ça, je parle uniquement des glaces. Pourquoi ? Parce que ces glaciers, même s'ils ne sont pas aussi vastes que les calottes polaires, ces glaciers fondent vite. Voilà, c'est la raison pour laquelle ils contribuent finalement beaucoup au niveau marin. Comme par exemple ce glacier en Patagonie chilienne. Ce sont les glaciers des régions humides qui arrivent au niveau de la mer. Ici, c'est la mer. Et ces glaciers, actuellement, contribuent considérablement au niveau marin, beaucoup plus, c'est sans commune mesure, avec les Alpes, par rapport aux Alpes et les Pyrénées, par exemple. Alors, ces glaciers sont très divers. Il y a des glaciers dans les régions polaires, il y en a, nous l'avons vu, sous les tropiques. Hein. Et si on fait un bilan, alors c'est un petit peu hasardeux de faire un bilan global de ces glaciers, mais disons, des collègues l'ont fait, canadiens notamment, et suisses, et ils ont montré qu'actuellement, les glaciers de montagne perdent environ 30 cm d'eau par an. 30 cm d'eau par an, ça veut dire que si je considère que c'est un glacier, ça, eh bien, vous enlevez 30 cm sur toute la surface du glacier. C'est ce qu'on appelle le bilan de masse du glacier. Hein. 30 cm par an, mais nous voyons que les disparités sont énormes. Il y a des glaciers qui perdent beaucoup plus que ça et des glaciers qui perdent beaucoup moins que ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, faire le tour du monde de ces glaciers et de regarder. Alors, ça, c'est des courbes, c'est un peu indigeste, mais ça permet quand même de fixer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh bien, commençons par l'Arctique. L'Arctique canadien, c'est l'Alaska, l'Islande, le Spitzberg, qu'on appelle Svalbard, le Groenland, mais pas la calotte, mais les petits glaciers qui sont autour du Groenland. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans l'Arctique, je parle de l'Arctique parce que c'est les glaciers qui sont les plus volumineux et ceux qui contribuent le plus au niveau océanique. Eh bien, tout était stable jusqu'à environ au milieu des années 80. Et puis, on voit que ça amorce un mouvement, un déficit, un mouvement vers le bas, qui traduit un déficit. Autrement dit, il y a dans ces glaciers, un mouvement de perte, hein, qui est cohérent avec celui qu'on observe au Groenland, bien sûr, mais plus marqué qu'au Groenland même. En Asie, alors l'Asie, c'est les Tian Shan, c'est le Caucase, c'est l'Himalaya, c'est l'Altaï, des grands glaciers, on voit que dans les Tian Shan, par exemple, il y a un déficit marqué et continu qui s'observe dès la fin des années 70. Plusieurs glaciers sont suivis dans les Tian Shan. Ils étaient bien suivis du temps de l'Union soviétique. Et actuellement, ils sont un peu moins bien suivis. Mais certains quand même donnent une tendance assez claire de ce qui est en train de se passer. Oui, l'Himalaya, ici, il y a très peu de glaciers suivis en Himalaya. C'est un glacier qu'on a équipé, nous, à Grenoble, au début des années 2000, le Chotachigri, dans le nord de l'Inde. Hein, on voit bien que la tendance est quand même négative également. Caucase, c'est plus récent, et l'Altaï également, c'est plus récent. Mais enfin, la tendance, quand même, le signal qui domine est quand même un signal de perte de masse. Hein. En Amérique, eh bien, en Amérique, vous avez ici, c'est la partie ouest des Rocheuses, nord-ouest des États-Unis et sud-ouest du Canada. On voit qu'il y a une perte extrêmement rapide de ces glaciers. Hein, c'est des glaciers qui sont pas très loin qui sont au nord de la Sierra Nevada, dans la région de Seattle et toutes ces régions du nord-ouest, de l'État du Washington, etc. Perte extrêmement significative depuis les années 70 à peu près. Et puis là-haut, on voit, il y a nos glaciers, c'est les glaciers qu'on étudie, nous, les Andes de l'Équateur, les Andes de Bolivie, l'Argentine, et on voit bien qu'il y a quand même un mouvement négatif dominant. Et l'Europe ? Alors l'Europe, il y a quelque chose de frappant en Europe, c'est que en jaune, c'est les Alpes. On voit bien que les glaciers alpins, ça c'est la moyenne de 13 glaciers, donc c'est une moyenne qui est robuste. Hein. On voit bien que les glaciers ont été stables jusqu'au milieu des années 80. Il y a même eu une crue glaciaire, une avancée assez significative dans le massif du Mont-Blanc et même dans le massif des Écrins, jusque dans les années 83-88. Et puis, depuis, il y a un déficit. Et on voit que ce déficit se creuse encore depuis le début des années 2000. Depuis les années 2000, les glaciers alpins perdent un mètre d'eau par an. Je me réfère aux glaciers qui sont étudiés, à savoir la mer de glace, la glacier d'Argentière, glacier blanc également, etc. Donc une perte très forte. Cette perte est évidemment très marquée dans les Pyrénées, on voit bien le bleu là-bas. Et puis vous avez quelque chose d'original, c'est la Norvège maritime, c'est-à-dire les glaciers situés le plus près de l'océan Atlantique en Norvège, qui, eux, ont connu une crue, c'est-à-dire une avancée significative entre la fin des années 70, on va dire, et le début des années 2000. Donc une anomalie, en quelque sorte. Hein. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est quelque chose qui est très très connu. Le climat de l'Europe est gouverné par deux centres d'action importants. C'est l'anticyclone des Açores, au sud, hein, et puis c'est la dépression d'Islande. Suivant la force relative de ces deux centres d'action, eh bien, quand, par exemple, la dépression d'Islande est très creuse et l'anticyclone des Açores est plus fort, eh bien, les dépressions intéressent surtout le nord de l'Europe. Et elles viennent percuter de plein fouet les reliefs de Norvège. Et donc, on assiste pendant ces hivers à des chutes de neige absolument énormes. Et même si la fonte a augmenté pendant l'été, elle ne peut pas entamer totalement, elle ne peut pas disposer totalement de ces énormes masses hivernales. Et donc, ça, pendant un certain nombre d'années, il y a eu la trajectoire des dépressions a été très orientée vers le nord de l'Europe, vers la Norvège, et ça suffit pour orienter le bilan de masse de ces glaciers vers des valeurs positives. Et on a eu des glaciers qui ont considérablement augmenté pendant ces années-là. Et c'est drôle de voir, si on peut dire, que la Norvège continentale, c'est-à-dire à 100 km à l'intérieur des terres, en direction de la Suède, on a des glaciers qui, en même temps, déclinaient, hein, parce qu'ils ne bénéficiaient pas de ce surplus des précipitations associées à cette configuration des centres d'action qui intéressaient l'Europe durant ces années-là. Depuis, eh bien, depuis cette période, depuis les années 2000, vous voyez que les glaciers maritimes se tassent, voire même diminuent. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on est dans une autre configuration. La, la dépression d'Islande est moins creuse, l'anticyclone des Açores est moins fort, et donc on a eu des trajectoires beaucoup plus méditerranéennes de ces flux perturbés. Et ça, donc, ça a bénéficié davantage à la Méditerranée. Donc, vous voyez que certains climato-sceptiques ont dit à une époque, vous dites que les glaciers reculent, oui, en Norvège, ils avancent. Bien sûr, mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Et ces avancées sont bien connues, et elles sont essentiellement dues non pas à la température atmosphérique, mais elles sont associées à une augmentation des précipitations hivernales.
C'était Bernard Francou, glaciologue à l'IRD. Son ouvrage « Quoi de neuf sur la planète blanche » est édité chez Glénat. Prochain rendez-vous avec la science à la bibliothèque de l'Alhambra sur l'invitation de l'IRD, c'est jeudi 24 mars à 17h, direction le Timor oriental en compagnie du géographe Dominique Guillot. D'ici là, bon week-end avec ou sans le 88.8.